Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique. On est le lundi 9 décembre, vous êtes dans la seule émission quotidienne qui parle de jeux à la radio. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu qui est une réédition, vous allez voir ça. Et puis dans quelques instants aussi, on retrouvera Ludo qui nous parlera du Roll and Write. Est-ce que le Roll and Write est encore à la mode dans le jeu de société? Eh bien C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer.
Et au menu aujourd'hui, donc, c'est Guns of Kyoto, un jeu de Rudiger Dorn, illustré par Jérémy Fleury, un jeu à la sauce Blackjack, où l'on va tirer des cartes dans l'univers de Kyoto Noneko, le jeu sorti au mois d'octobre. Ici, le but sera de faire sauter vos adversaires. Ce jeu édité par Matago pour 2 à 5 joueurs et la réédition de Danger 13. Alors, au niveau de la mise en place, très simple, il n'y en a pas. Vous mettez le paquet de cartes au milieu de la table, les cartes ont des valeurs de 0 à 5, et certaines ont des petits grelots, ce sont les points de victoire, et il y a aussi des cartes actions spéciales, on va y revenir. Mais alors comment on joue? À votre tour, vous allez prendre un nombre de cartes de la pioche, selon le nombre de joueurs. Vous jouez à 4? Eh bien vous prenez 4 cartes. Les cartes sont face cachée, et vous allez en regarder une première. Soit bah, vous la gardez pour vous, soit vous l'offrez à un de vos adversaires. Enfin, offrir est un grand mot, car on ne fait généralement pas de cadeaux dans ce jeu. Une chose est sûre, à la fin du tour, tout le monde devra avoir récupéré une carte. Puis, eh bien, c'est au joueur suivant de faire pareil, et ainsi de suite. Chaque carte que vous recevez, vous la mettez devant vous en la posant à droite de la carte déjà posée. À partir du moment où l'un des joueurs atteint avec l'ensemble de ses cartes une somme de 13 ou plus, eh bien il saute. Et le joueur actif ne continue pas à distribuer les cartes, il les remet sous la pioche. Les autres joueurs, eux, eh bien, vont comptabiliser les petits grelots de leurs cartes. Vous posez les cartes face cachée, hein, les cartes sans grelots, elles, sont défaussées. Une nouvelle manche commence, on va enchaîner comme ça les manches jusqu'à ce que l'un des joueurs cumule 13 grelots. Mais attention, certaines cartes ont des effets. Par exemple, si la carte que l'on vous donne, il y a le symbole d'une carte avec un plus, bah cela signifie que vous devez piocher immédiatement une autre carte. Il y a aussi des cartes spéciales, certaines ce sont juste des petits chats sans valeur hein, qui vous donnent des grelots, celles-là on les aime bien, tout comme la carte chat 18 qui signifie que le joueur qui l'a devant lui eh bien, ne sautera pas à 13 mais à 18, ce qui lui laisse un petit peu plus de marge. Vous avez la carte du chat qui dit non merci, ta carte je n'en veux pas, ou la carte du chat qui supprime la carte déjà posée précédemment. Forcément, ce style de cartes, en général, on se les garde pour soi. Mais comme on voit les cartes au fur et à mesure, bah, c'est pas si évident que ça. Il existe des petites variantes que je vous laisserai découvrir. Alors, ce que j'en pense de Guns of Kyoto, eh bien, je connaissais pas Danger 13. Et franchement, ravi de découvrir cette version avec les illustrations de Jérémy Fleury. C'est le bon petit jeu d'apéro. On enchaîne les parties. Alors, il faut bien répartir les cartes entre tous les joueurs ou s'acharner sur un si on voit qu'il est prêt de 13. Comme ça, bah, il saute. Par contre, bah, il va se venger un petit peu plus tard, hein, lorsque ça sera son tour. Et là, c'est sûr, il y a un petit peu de hasard dans le jeu, mais j'ai été agréablement surpris, car je n'attendais pas grand-chose de ce jeu. Un jeu qui risque de sortir assez souvent, mécanique simple et efficace. On ne demande rien de plus, finalement, à un jeu de société. Voilà, allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour le Roll and Write. C'est encore à la mode ou...
Hey, salut les enfants! Vous m'avez reconnu, j'espère? Ben oui, c'est moi, le Père Noël! Je te donne rendez-vous sur Millennium le mercredi 18 décembre à 9h30 avec Matt et Greg dans Miltonic. Envoie ton vocal à la radio et je te répondrai en direct. En attendant, sois très sage. À bientôt!
C'est la pause du midi. Il te donne son avis. C'est ludique, c'est le point sur les J.
Et le point sur les J qui retrouve sa case du lundi avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui on va parler du Roll and Write. Est-ce que le Roll and Write est encore à la mode? Parce que on va se poser cette question Ludo.
Exactement, c'est une bonne question. Alors déjà pour nos auditeurs, on va déjà essayer d'expliquer très brièvement ce que c'est qu'un Roll and Write. Parce que tout le monde ne déchiffre pas et n'est pas comme toi et moi dans le milieu ludique profondément ancré.
Ouais.
Alors si on va sur le blog de Philibert, il nous décrit le Roll and Write comme étant un jeu roule et écrit. Alors ça c'est sûr, ça, c'est, d'accord, c'est bien. Alors le principe est simple, en fait on va faire rouler des dés, on va obtenir des résultats, on va le retranscrire sur une feuille ou un autre support, et donc ça s'appelle donc le roll and write. Alors on a tous joué dans sa vie un roll and write, je vais pas prendre trop de risques en disant qu'on a tous joué au Yams ou au Yahtzee, hein, c'est
ah
la
bah
même
oui.
chose,
oui, c'est vrai.
Qui est le premier roll and write par définition qui a existé. Alors, depuis, la famille des Roll'n'Write s'est agrandie, depuis leur renaissance et la sortie du célèbre jeu Welcome to Your Perfect Home, qui était sorti donc chez Blue Cocker en 2018.
Mais
alors,
si je dis pas de bêtises...
Ça fait déjà 6 ans.
Ludo, si je dis pas de bêtises, Welcome to, c'est pas un Roll'n'Write, c'est un Flip
alors
and
non,
Write.
Mais je vais y venir, mais tu vas voir que pas trop en
ah,
même
d'accord.
temps en plus.
Okay.
Ouais, ouais. Alors, ça fait 6 ans qu'on assiste à un espèce de revival de cette mécanique de jeu, qui avant n'était pas si développé que ça dans l'univers ludique moderne. Alors,
ouais.
ce qui est tout de même cocasse, comme tu le disais, c'est que Welcome, qui est donc le jeu qui a relancé cette mécanique, utilise plutôt la mécanique du flip and write et non du roll and write. Alors, mais ce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que à ses tout débuts, en termes de quand il était encore un prototype,
ouais.
Le jeu utilisait des dés, et c'est lors de séances, de nombreuses séances de bêta-test, hein, ou de travail sur le jeu, de game design, que les dés ont été abandonnés
ah,
et ont été remplacés par des cartes. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on met dans cette grosse famille, parce qu'on vient de parler de Flip and Write pour Welcome, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Alors, il y a beaucoup de petites mécaniques, en fait, hein, qui font partie de cette même famille. Donc, le flip and write, comme Welcome to, ou comme cartographeur. On a donc le roll and write, classique, comme très futé. On a le pitch and write, aussi, comme un jeu qui s'appelle Sonora, qui n'a jamais été encore traduit en français.
Mais ah oui, d'accord.
On pitch des petits palais, et puis on va écrire des choses. On a le call and write, donc avec Colorado.
Oui.
Par exemple, et on a aussi le draft and write avec le plus récent Rivage.
Exactement.
Et selon...
On en a oui. encore d'autres.
Ah, je t'écoute.
Ouais, je crois qu'on a le roll and draw.
Ah oui, le roll and draw, mais du coup, c'est plus du write. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, il y a
bon,
plus de
on
write.
On va le mettre dedans.
Ah,
on va
oui.
le mettre dedans.
Ah oui, oui.
On va le mettre dedans, effectivement, on roule des dés et on dessine.
Ah non, là, on roule pas des dés, on roule des feutres.
On roule des feutres, oui. Ah oui, oui, d'accord, ok. Il y avait aussi un jeu chez Blue Orange où on lançait les dés, on écrivait sur les dés.
Ah oui, oui, draw and roll.
Ouais, voilà, ouais. Il y avait du draw aussi, du roll. Enfin bon,
bon
on se perd un petit peu. Bon, selon BGG, notre ami BGG, entre 2018 et maintenant, 2024, il y a environ 1800 jeux avec une mécanique de truc and write. On va dire truc and write, hein, ça va être plus simple.
D'accord.
Extensions comprises, bien sûr, qui sont sorties sur le marché. Ça fait une moyenne d'environ 300 jeux par an, mais ça commence à redescendre dès 2023 avec 269 jeux, par exemple.
Ah oui.
Alors en France, on remarque que chaque éditeur hein, en est allé de son petit jeu, comme s'il en fallait un pour rester dans la course. Donc il y avait Marabunta chez Space Cowboy, Dungeon Dice and Danger chez Ravensburger, Point City chez Gigamic, Get On Board chez Yellow, Lantern Dice chez Matago, Paper Dungeon chez Super Meeple, Trek 12 chez Lumberjack, Déméter chez Soif, Look for the Star chez Bombix, Roule Tampouille chez Spesco, et etc., etc., etc.
Il y en a beaucoup.
On a eu effectivement une vague. Alors, les éditeurs répondent à une demande du marché, ou bien c'est l'inverse, est-ce que ce sont les créateurs qui, dans leur travail, se sont inspirés de jeux qui sortent, et donc ils travaillent dessus, et tu vois, un peu l'œuf ou la poule,
ouais.
Et donc bah, ils vont jouer à ça, donc ils vont travailler sur des jeux qui s'inspirent de ça, etc.
Et puis peut-être,
pour moi, c'est un peu des deux.
Ouais, peut-être que tu vas aussi en parler, mais il y a des jeux qui sont devenus après un jeu en roll and write.
Bah, y a eu les... Alors, je ne vais pas en parler forcément de ces modifications-là, mais il y a eu ce qu'on appelle un peu un travail un peu feignant, de transformer effectivement des jeux en roll and write, c'est-à-dire bah, la version roll and write, la version enfant, la version machin, la version
pourtant,
truc, etc.
Par exemple, on a un jeu, je prends un exemple comme ça, on a My City qui est un très bon jeu, mais qui est un très
oui.
bon jeu aussi en roll and write.
Oui, oui, alors oui, c'est subjectif. Disons que, effectivement, le jeu à la base, qui est une espèce de petite campagne avec des ajouts, etc., etc., devient un roll and write pour moi un petit peu plaqué et un petit peu plat, on ressent pas tout à fait la même chose.
Ah bah non, c'est pas la même chose
bon,
forcément
voilà.
puisque
bah,
là
il y a le seul exemple pour moi qui tienne bien la route, c'est l'exemple de Raja of the Gungeon qui est un jeu expert à la base et donc où ils ont sorti Dice Charmers qui était la version jeu de dés et donc Roll and Ride qui là fonctionnait très très bien parce qu'on ressentait bien les problématiques, les nombreux choix, les dilemmes du jeu d'origine.
Ouais, je crois qu'on a même une version carte maintenant aussi.
Ouais, voilà. Alors, il est loin hein, le temps où le Yahtzee était un des seuls jeux à permettre aux joueurs de griffonner des feuilles de jeu parce que c'était déjà mat en 1956.
Waouh, ah oui, ça remonte.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qui plaît autant dans ces jeux de truc and write ? Alors, on a des choix à chaque tour qui sont de plus en plus restreints pour la plupart des jeux parce qu'on va enlever les dés. On a l'optimisation des coups, des combos en cascade en général. On peut aussi... Ça peut permettre de jouer, si on a le matériel, à un grand nombre de joueurs. Et puis, en général, bah, les prix des jeux sont quand même relativement faibles parce qu'on a besoin parfois d'un crayon qui est fourni dans la boîte, mais pas toujours, d'une paire de dés ou un peu plus, et puis une liasse de petites feuilles.
Ouais.
Donc, le prix de revient est assez restreint et assez court. Alors, au moment de la pandémie de Covid-19, et principalement pendant le confinement en 2020, les joueurs vont découvrir les jeux un peu autrement. Donc le jeu en ligne sur des sites comme BGA, Board Game Geek Arena, en visio avec des amis ou bien en format print and play. Et la majeure partie des print and play qui sont mis à disposition des éditeurs pendant cette période sont des jeux roll and write, flip and write. C'est dû surtout en fait à la structure du matériel. Des cartes à découper, des feuilles à imprimer, et puis souvent les dés que tu as à rajouter, bah, tu les trouves chez toi parce que c'est des dés classiques, des dés de 6.
Bah, oui.
Et puis, parfois, si tu as besoin de dés un peu plus complémentaires, tu as bien un copain rôliste qui traîne dans le coin et qui va avoir un dé de 8, un dé de 10, un dé de 12 ou un dé de 20.
Et on en a quelques-uns chez nous, des dés, Ludo.
Exactement. Alors, tout d'abord, familiaux dans leur grande majorité, les trucs and write ont été utilisés dans des jeux experts comme 3 Dice chez Feu Pearl Games ou bien Mur d'Adrien aussi chez Pixie Game. Et puis, il y a eu aussi le summum, hein, il y a eu Twilight Inscription chez FLG Asmodée. Alors le jeu pour enfants est aussi concerné, mais en plus petite proportion, la sortie il n'y a pas longtemps en Bombix Matago avec Takeno Color.
Oui, pas se tromper, parce que moi je me suis trompé, je l'appelais Takenoko Color.
Oui, ah bah je me suis trompé, Takenoko Color, voilà,
non, j'ai oublié l'intention. Non, c'est Takeno Color, c'est bon, t'as la
bonne voilà.
C'est
voilà,
moi qui me suis trompé.
Mais oui, alors... En 2024, on peut se poser maintenant où on en est et qu'est-ce qui se passe. Alors, en 2024, encore selon BGG, il y a 160 jeux qui sont sortis sur une grosse partie de l'année, mais pas vraiment en France, en fait.
Ah.
Parce qu'en fait, on constate que là, au niveau des sorties françaises, cette mécanique de jeu commence un peu à s'essouffler. Alors, peut-être pas chez les joueurs, qui, eux, je pense, continuent... à jouer à Welcome to the Moon ou bien même la
aussi.
Série des Tréfutés, Cartographeur, tout ça c'est encore dans les chaumières, mais chez les éditeurs et dans les boutiques on voit effectivement de moins en moins de propositions avec des dés, des crayons et des feuilles à griffonner. Alors à part le très bon Fleet Town là qui est sorti il y a quelques mois, qui est une localisation chez Bad Boom Games,
je connais pas celui-là,
voilà, qui est sur le principe du flip and write avec des cartes de poker, on va revenir au poker d'ailleurs, et il n'y a plus grand chose actuellement, tu vois, sur le marché il n'y a pas d'autres exemples, pas trop de trucs, donc on peut se demander.
Il y a un nouveau qui arrive là à la rentrée, c'est Cascadia flip and write
encore une fois, tu vois, mais on est sur une adaptation d'un jeu machin, à quand Splendor and write, Dorf Romantic and White, ou Azul and Wright.
Il y aura un Azul duel, mais...
On peut se demander si cette mécanique ne va pas disparaître un peu comme elle s'est pointée, comme ça, d'un coup de feutre. Alors, actuellement, c'est plutôt les jeux de cartes qui démarrent un nouveau courant.
Oui, c'est vrai.
C'est un vrai raz-de-marée sur le marché, tout le monde s'y frotte.
Ouais.
Alors, en ce qui me concerne, en attendant le retour, on parlait poker tout à l'heure, de la star en devenir de The Gang chez Yellow,
bien sûr.
Que tout le monde veut, qui est en rupture après, juste même au niveau de l'implantation, il était déjà en rupture.
Ouais.
Donc là, ça va revenir dans une semaine.
Ouais.
Moi, je me satisfais pour l'instant avec Gangs of Kyoto, un jeu fourbe chez Matago, et je salue Simon, parce que c'est un peu grâce à lui,
mais
passe-temps, il comprendra.
Tu as écouté ma chronique juste avant ou quoi?
Non, même pas.
Eh ben, c'était Games of Kyoto.
Ben ouais, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, comme quoi on est raccord. Donc, Alors, je dirais que moi, en fait, ce phénomène de mode ou de cours, enfin, n'est pas forcément que lié aux mécaniques de jeu, mais aussi parfois ce sont les thématiques qui sont concernées. Donc, effectivement, ces derniers temps, la nature, les arbres, l'écologie ont un peu supplanté les pirates, les dinosaures et surtout les zombies. Pourtant, on parle pas forcément de mode, mais plutôt d'un courant lié à la société dans laquelle nous évoluons chaque jour. Le monde du jeu est donc une éponge, et que ça soit au niveau des créateurs, autrices et illustrateurs, illustratrices, qu'au niveau des éditeurs. Alors, tout n'est pas forcément une question de rentabilité économique, mais il faut bien rester terre à terre quand même. Le but d'un jeu de société qui est mis sur le marché par un éditeur, c'est qu'il se vende en premier lieu, et c'est logique, parce qu'un éditeur, même s'il est un peu philanthrope, c'est pas une association caritative, c'est bien une entreprise commerciale.
Bien sûr.
Donc, les types de jeux de société évoluent avec cette dernière, la société, que ce soit au niveau des thématiques, que des envies et des besoins des joueurs. Le marché s'adapte et parfois un jeu devient un précurseur d'un mouvement particulier. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu avec Welcome To. Et on le voit aussi avec les jeux narratifs, coopératifs et les formats Legacy. Donc je conclurai là-dessus. Le plus important, et que chacun y trouve son plaisir, il y a toujours un jeu qui vous correspond. Il suffit de le trouver. Et bien, si vous le trouvez pas, vous faites comme Alain chez Blue Cocker et vous éditez un jeu que vous créez vous-même avec des auteurs, qu'ils soient Roll and Write, Flip and Write ou pas.
Ouais. Et finalement, jamais un Roll and Write n'a obtenu d'As d'or.
Non. Alors ça, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Est-ce que le jury du moment depuis toutes ces années, alors il y avait beaucoup de temps, on a vu, où il n'y avait pas de flip and write sur le marché, ou alors ils n'étaient pas très bons. Mais après, il y a eu un lot, il y a eu une déferlante, donc je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est pas lié aussi à ça? Est-ce qu'un jury va pas se dire, je vais m'intéresser à une mécanique ou pas une mécanique?
Welcome l'aurait mérité.
Particulier. Welcome l'aurait mérité 4 années de suite, et Welcome to the Moon aussi. Mais on n'est pas des jurys,
non.
Toi et moi,
non.
Pas pour l'instant en tout cas, on ne sait jamais, mais peut-être qu'effectivement, les jeux comme ça, qui rentrent, parce qu'on se pose la question si ce n'était pas un effet de mode, donc je pense que les jurys aussi se posent la question. Et est-ce qu'un jeu qui, soi-disant, fait partie d'un effet de mode, est un jeu qui ne sera peut-être pas pérenne, et du coup qui ne restera pas dans les ludothèques à long terme et dans les esprits à long terme? Et est-ce que c'est pour ça que ça l'exclut d'un prix ou d'une certaine notoriété de ses pairs? La question reste posée.
Merci beaucoup, Ludo. Eh bien, c'était la dernière du Point sur les J avant les vacances de Noël, bien entendu. On te retrouvera à la rentrée, au mois de janvier.
À la rentrée, avec un sujet hyper important que tout le monde se pose, c'est comment ranger ses jeux à la verticale ou à l'horizontale.
Excellent, ça c'est très bien pour la rentrée. C'est parfait. Merci beaucoup, Ludo. Et on se retrouve au mois de janvier. Salut, Ludo.
Salut.